C'est l'histoire d'un visage effacé de l'histoire officielle qui ressurgit sur les murs de Dakar. Un visage devenu une source d'inspiration pour une partie de la jeunesse au Sénégal. Un visage auquel Mazo, un graffeur dakarois, a redonné vie sur une immense fresque.
Ce qu'on voit là, c'est l'image d'un jeune qui s'appelle Omar Boulanda Diop. Je l'ai représenté avec une cigarette à la main droite, habillé d'une chemise blanche, en train de lire.
Omar Blondin Diop apparaît au milieu d'un panthéon de figures célèbres du Black Power. On reconnaît Malcolm X, Winnie Mandela, Cher Anta Diop ou Thomas Sankara. La photo qui a inspiré ce portrait date de 1970. Omar est alors un brillant étudiant en philosophie et un fervent militant anti-impérialiste opposant au président Senghor.
Blondin, c'est en fait l'un des architectes même de la pensée révolutionnaire sénégalaise africaine.
Une figure dont la vie s'est arrêtée brutalement le 11 mai 1973. Ce jour-là, son corps sans vie est retrouvé dans la cellule numéro 3 de la prison de l'île de Gorée. Il n'a que 26 ans. Les autorités présentent sa mort comme un suicide. Les proches d'Omar, eux, dénoncent un crime d'État. 50 ans plus tard, aucune vérité judiciaire n'a été établie.
Aujourd'hui même, nous continuons à revendiquer et à vouloir que la lumière soit faite sur la mort d'Omar Blondin Diop. Depuis toutes ces années, il a subi une sorte d'injustice historique, en fait. Donc, pour nous, c'était important de peindre Omar Blondin pour aussi se réapproprier cette conscience historique et d'enseigner à nos jeunes qu'ils ont des références qui se sont battues jusqu'à leur dernier souffle et qui sont restées dignes.
Je m'appelle Florence Maurice, je suis journaliste au service Afrique de RFI.
Je m'appelle Clémentine Métainier, je suis journaliste indépendante. Nous avons découvert Omar Blondin Diop en août 2022. La réminiscence de sa figure et les circonstances troubles de sa mort nous ont interpellés. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté entre le Sénégal et la France. Nous sommes allés fouiller dans les archives. Nous avons rencontré des témoins, des proches d'Omar, des hommes et femmes politiques, des acteurs de l'époque. Certains s'expriment sur le sujet pour la première fois.
Moralement, le président Senghor était désolé de la mort de Omar Blondin Diop. Il m'a dit que c'est une catastrophe.
Il y aurait eu une rixe. C'est la version qui circulait à la présidence parmi les gens qui gravitaient autour du pouvoir.
Qui était Omar Blondin Diop? Comment est-il mort? En quoi son histoire éclaire-t-elle les paradoxes du pouvoir du président sénégalais d'alors, Léopold Sédar Senghor? Nous vous proposons un éclairage en 5 épisodes sur le destin hors du commun de cet intellectuel subversif et provocateur. Un personnage au carrefour des luttes internationales de la fin des années 60, devenu une icône des militants panafricains.
Vous écoutez Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage.
Épisode 1, une étoile filante de l'ère Senghor.
Pourquoi Omar est mort finalement?
Je dirais qu'il est mort d'avoir trop aimé.
Alioune Sall dit Paloma, un ami d'Omar.
Parce qu'il est... il y a cru et il est allé jusqu'au bout. Il est mort d'avoir trop aimé la vie.
Il ne pouvait pas vivre longtemps.
Diallo Diop, l'un des frères d'Omar.
Parce qu'il a vécu trop intensément. C'est la formule des des situs. Vivre sans temps mort et jouer sans entrave. Il a vécu comme ça. Mais il est mort physiquement, mais je me rends compte qu'il se survit à lui-même de manière étonnante. Bon, mais sa vie a été météoritique.
L'histoire d'Omar Blondin Diop est à bien des égards singulière, intense et fulgurante. Il naît en 1946 dans la colonie française du Niger. Il passe sa petite enfance à Dakar et son éducation n'est pas banale pour l'époque. Son père, médecin, est aussi un leader syndicaliste proche de l'Internationale ouvrière. Omar grandit au milieu des livres, des journaux et des débats d'idées. En 1960, à l'indépendance du pays, la famille s'installe à Paris. Omar a 14 ans. Il fréquente les lycées les plus prestigieux de Paris. Son meilleur ami n'est autre qu'Antoine Gallimard, le fils du célèbre éditeur parisien.
Son caractère me plaisait beaucoup parce qu'il était très curieux, très avenant. Moi, j'étais plutôt discret et on s'est tout de suite bien entendu.
Omar est un élève brillant, mais il se fait déjà remarquer pour ses turbulences.
Il pouvait être très provocateur, il n'avait pas peur. En même temps, c'était quelqu'un qui était très, très sensible, même physiquement, mais il n'avait pas peur de provoquer. Il aimait bien avoir des expériences, vous voyez. Il fallait qu'il pousse la machine jusqu'au bout pour sentir un peu les résistances et ce à quoi on pouvait se heurter.
Cela ne l'empêche pas d'intégrer l'École normale supérieure de Saint-Cloud, une première pour un Sénégalais. La presse s'en fait l'écho à Dakar, Omar entre dans l'histoire.
Il est vu par beaucoup de gens comme un brillant génie. Il fascine beaucoup de gens par la maîtrise qu'il a de la langue française. Il fascine d'autres par un côté anarchiste, contestataire.
Car tout en philosophant, Omar se politise. C'est le temps de la révolution culturelle en Chine, du soleil des indépendances. Le jeune homme s'abreuve de tout, critique tout. Quand éclate la révolte de 1968 en France, Omar délaisse les cours. Il est aux premières loges aux côtés du leader du mouvement, Daniel Cohn-Bendit. Le 3 mai 1968, lorsque la police évacue la cour de la Sorbonne, occupée par des étudiants, Omar est interpellé. L'ombre de la surveillance policière commence à planer sur lui.
Confidentiel. Préfecture de police de Paris. L'intéressé figure au fichier des garnis comme membre d'un mouvement révolutionnaire. Connu, extrémiste.
Au même moment, la révolte gronde au Sénégal. 10 ans après l'indépendance, le régime du président Senghor est ébranlé. Pour Omar, le chef de l'État sénégalais est resté un valet de la France. Au cours de ses années de braise, à Dakar aussi bien qu'à Paris, il devient un révolutionnaire encombrant. À l'automne 1969, son sort va faire l'objet d'une négociation entre les présidents Pompidou et Senghor. Nous y reviendrons dans l'épisode 2. En 1971, Omar franchit le point de non-retour. Avec 3 camarades, il part se former à la lutte armée aux côtés de combattants palestiniens. Après la révolte théorique, Omar bascule dans l'action directe.
C'était le temps de la révolution.
Aguibou Diarra, un cousin éloigné d'Omar.
Mai 68, en France, les Black Panthers, les Tupamaros, Angela Davis et Omar étaient le point de jonction de cette connexion. Et ils voulaient un changement positif pour l'Afrique, l'unité de l'Afrique. Je peux même dire que Omar, c'est le Che Guevara africain.
La trajectoire d'Omar s'arrête brutalement. Avec ses amis, ils échafaudent un projet d'enlèvement qui leur vaudra d'être arrêtés, puis condamnés et emprisonnés sur l'île de Gorée. 14 mois plus tard, l'étoile filante Omar Blondin Diop s'éteint. Que s'est-il réellement passé dans cette cellule numéro 3 de l'île de Gorée ? Nous retracerons le déroulé de ces heures tragiques dans l'épisode 4.
Notre frère était là, Lopi. Et pendant tout le reste de sa vie, il nous a martelé tout ce qui se passait ici. Ben ça, que le gars, il le battait. Il y avait des bagarres. Que ça se terminait mal, que Omar était récalcitrant. Il n'acceptait pas les extinctions de feu qui sont trop tôt. Ou alors les demi-heures de cours qui sont écourtées. Hein, d'abord, c'est court, chacun à son tour, puis ensuite on est courte, etc. Ça créait des problèmes et il n'hésitait pas à faire le coup de poing avec eux. Tout ça, le pays était là, il écoutait, il entendait, il était informé. Et quand Omar était fatigué et qu'il souffrait, il entendait gémir à côté. Donc, si vous voulez, lui, en temps réel, il a suivi ce qui s'est passé, quoi. Donc, on a beaucoup d'éléments qui font qu'on n'a pas de doute, nous.
فناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي.
11 mai 2023, dans le cimetière musulman Soumbé Dioun de Dakar. Une centaine de personnes entourent la tombe en carrelage bleu foncé d'Omar pour commémorer les 50 ans de sa mort. Sa famille, des amis, ses compagnons de lutte de l'époque psalmodie, certains sont agenouillés. Une quinzaine de jeunes membres de mouvements panafricains sont également présents. Ils forment une procession autour d'une banderole à l'effigie d'Omar, devenue pour eux un modèle d'engagement révolutionnaire.
Nous, mouvement panafricain d'aujourd'hui, nous jeunes d'aujourd'hui, Omar est pour nous un repère. Omar est une référence.
John, militant du mouvement Frappe France Dégage.
Omar ne pouvait pas comprendre qu'après l'indépendance, que le Sénégal continue à servir la France, que la politique française continue à perdurer au Sénégal et que le chef de l'État qui était ici continue à avoir un comportement docile vis-à-vis de la politique impérialiste de l'Occident. Il a marqué son temps par son patriotisme. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer son combat. Et aujourd'hui, on est très fiers de se réclamer comme étant des disciples de Omar Boulogne Diop. Et jusqu'à la fin de nos jours, nous allons continuer la voie qui a été tracée par Omar Boulogne Diop.
La mort d'Omar, à 26 ans seulement et dans des circonstances controversées, l'a figé en martyr. Depuis plusieurs années, l'historien Florian Bobin travaille à écrire sa biographie.
Comme vous l'aurez remarqué, beaucoup de gens parlent toujours de lui au présent. Parce qu'il y a une actualité du combat d'Omar. Et ça s'explique aussi parce que dès lors qu'on meurt jeune, on reste jeune, je pense. Omar est mort à 26 ans et il aura toujours 26 ans. Donc ceux qui aujourd'hui ont entre 18 et 30 ans, que ce soit dans les années 90, 2020 ou 2050, verront toujours Omar comme un jeune de 26 ans qui est mort et qui a porté des combats qui pour eux sont toujours actuels.
Mais vous l'avez compris, au-delà de sa mort tragique, la trajectoire d'Omar Blondin Diop permet de sonder les relations complexes entre la France et le Sénégal.
Ben, ce qu'il combattait, c'était le poids d'une France coloniale.
Alioune Sall, dit Paloma, un ami d'Omar.
Parce que jusqu'en 68, on est quand même dans un pays où l'université est française, où les recteurs sont nommés par la France, où la chambre de commerce est dirigée par un Français, le conseil juridique est fourni par le conseil constitutionnel français, le conseil économique de la présidence vient du ministère des Finances, c'est un inspecteur du Trésor. Et évidemment, ça, c'était assez insupportable pour Omar, qui connaissait de l'intérieur le système français et qui voyait bien que c'était un système qui s'écroulait.
Enquêter sur Omar Blondin Diop, c'est aussi lever le voile sur certains aspects du régime du président Senghor, encore méconnu, et qui tranche avec l'image d'Épinal du poète président humaniste et démocratique.
À travers Blondin, c'est une époque qui se raconte, c'est une histoire globale, une histoire connecté. C'est le Sénégal de l'époque qui se raconte, mais c'est aussi des problématiques transnationales. C'est les aspirations d'une jeunesse de l'époque qui se raconte. C'est des choix qui ont été faits, la construction du jeune État du Sénégal, les chemins que celui-ci a pris. Et ça permet aussi de regarder des problèmes dans le temps long, quoi, de se poser la question de savoir est-ce que les préoccupations de l'époque sont encore les nôtres ou pas. Quel est le chemin qui a été parcouru ?
Si Omar est aujourd'hui devenu une figure du panafricanisme, c'est bien en France que débute son parcours subversif. Comment le brillant étudiant fraîchement arrivé sur les bancs de l'école normale de Saint-Cloud va-t-il se retrouver au cœur de la révolte de mai 68, au point de devenir encombrant pour deux États frères, la France et le Sénégal ? C'est l'objet du prochain épisode.